Chapitre 4 Contenant l'apologie de l'auteur et un incident puéril qui peut-être aurait aussi besoin d'apologie. Avant de continuer, je demande la permission de prévenir les mauvaises interprétations auxquelles le zèle de quelques lecteurs pourrait les conduire. Car je ne voudrais en offenser aucun, surtout ceux qui mettent de la chaleur à soutenir la cause de la vertu ou de la religion. J'aime à croire, en conséquence, qu'il n'existe pas un homme qui, comprenant mal ou dénaturant mon intention, tente de me représenter défavorablement en m'accusant d'avoir voulu jeter quelque ridicule sur les plus grandes perfections de la nature humaine, que je reconnais comme pouvant seul purifier, en oublier le cœur de l'homme et l'élever au-dessus de la brute. J'oserais dire, lecteur, et plus vous serez vertueux, plus vous aurez de penchant à me croire, que j'aimerais mieux que vous laissassiez dans un éternel oubli les sentiments de ces deux personnages, que si j'avais à me reprocher d'avoir fait moi-même le plus léger tort à l'une ou à l'autre de ces deux belles causes. C'est, au contraire, à dessein de leur être utile que j'ai pris sur moi de représenter les portraits et les actions de deux de leurs faux et prétendus champions. Un ami perfide est l'ennemi le plus dangereux, et je dirais hardiment que les hypocrites ont fait plus de tort à la religion et à la vertu que les libertins et les infidèles qui ont eu le plus d'esprit. Je vais plus loin. Si la vertu et la religion, dans toute leur pureté, ont mérité d'être appelées les liens de la société civile, il faut convenir que dès qu'elles ont été empoisonnées et corrompues par la fraude, le mensonge et l'affectation, elles sont devenues la pire des malédictions, et ont rendu les hommes capables de commettre envers leurs semblables les attentats les plus affreux. J'espère, je n'en doute même pas, que l'on approuvera généralement le ridicule que j'ai jeté sur ces deux personnages. Ma principale crainte est qu'une grande quantité de sentiments vrais et justes, étant souvent sortis de leur bouche, on ne les confonde avec les autres, et qu'on ne m'accuse de les avoir tous également tournés en ridicule. Mais le lecteur voudra bien considérer que ni l'un ni l'autre de ces deux hommes, n'étant un fou, ils ne peuvent être supposés n'avoir émis que de mauvais principes et n'avoir dit que des absurdités. Combien n'aurais-je donc pas été injuste envers eux si je n'avais fait voir que le mauvais côté de leur caractère, et combien alors leurs arguments auraient dû paraître affreux et révoltants. Après tout, ce n'est pas la religion et la vertu qui sont tournées ici en ridicule, mais ce qui manquait de l'un et de l'autre à ces deux personnages. Si Thwackum n'avait pas trop négligé la vertu, et Square la religion, dans la composition de leurs différents systèmes, et s'il n'avait pas mis entièrement de côté toute la bonté naturelle du cœur, ils n'auraient jamais été représentés comme des objets de dérision dans cette histoire, que je vais maintenant demander la permission de continuer. Le sujet qui mit fin au débat dont j'ai parlé dans le dernier chapitre n'était autre qu'une querelle entre M. Blifil et Tom Jones, dont le résultat fut que le premier eut le nez tout en sang. Car bien que M. Blifil, malgré quelques années de moins, fût plus grand que Tom, celui-ci l'emportait beaucoup sur l'autre dans le noble talent de se battre à coups de poing. Tom évitait cependant avec soin toutes les occasions de se battre avec M. Blifil, pour lequel il avait un véritable attachement. D'ailleurs, tout fripon qu'il était, il ne faisait jamais de mal à personne, et puis M. Thwackum, servant toujours de second à M. Blifil, aurait suffi pour le retenir. Mais, comme dit très bien certain auteur, nul homme n'est sage à toutes les heures du jour. Comment donc un enfant le serait-il? À la suite d'une dispute qui s'était élevée entre les deux jeunes gens, M. Blifil appela Tom un misérable bâtard, sur quoi celui-ci, qui était un peu colère, lui appliqua un coup de poing qui lui mit le nez tout en sang. M. Blifil, avec le sang qui coulait de son nez et un torrent de larmes qui se précipitait de ses yeux, parut en ce moment devant son oncle et le terrible Thwackum. Il accusa Tom à ce tribunal de l'avoir attaqué, battu et blessé. Tom s'excusa sur l'insulte qui lui avait été faite, la seule chose que M. Blifil eût oubliée. Il est cependant très possible que cette circonstance eût échappé à sa mémoire, car dans sa réplique, il affirma positivement qu'il n'avait point fait à Tom l'injure dont il se plaignait, et ajouta « Que le ciel me punisse si jamais d'aussi vilains mots sont sortis de ma bouche ». Tom, au mépris de toutes les formes de la loi, répliqua que ces mots-là étaient sortis de la bouche de M. Blifil. « Je ne m'étonne plus de rien, » reprit M. Blifil. « Ceux qui ont pu dire un mensonge ne se font pas scrupule d'en dire un autre. Si j'avais dit à mon maître un mensonge aussi impudent que le vôtre, je serais honteux de me montrer. » « Quel mensonge, mon ami ! » s'écria Thwackum avec chaleur. « Quel mensonge ? » répliqua M. Blifil. « Il vous a dit que personne n'était à chasser avec lui quand il a tué une perdrix. Mais il sait bien, ici il fondit en pleurs, oui, il sait bien, car il me l'a dit lui-même, que Black George, le garde-chasse, était avec lui. De plus, il m'a dit, « Oui, vous me l'avez dit, niez-le si vous l'osez, que vous n'auriez jamais confessé la vérité, quand notre maître vous aurait fouetté jusqu'au sang. » À cette découverte, le feu brilla dans les yeux de Thwackum, qui s'écria tout triomphant, « Oh oh ! Voilà donc votre fausse notion de l'honneur, et voilà l'enfant qu'il ne fallait pas fouetter une seconde fois. » M. Allworthy, avec beaucoup plus de douceur, se tourna vers Tom et lui dit, « Cela est-il vrai, Tom ? Comment avez-vous persisté si obstinément dans votre mensonge ?» Tom répondit qu'il méprisait un mensonge autant que qui que ce fût, mais qu'il avait cru son honneur engagé à se conduire comme il avait fait, qu'il avait promis au pauvre malheureux de ne pas le découvrir, et qu'il s'y était cru d'autant plus obligé que le garde-chasse l'avait prié de ne point aller sur la terre voisine. Que Black George n'y avait été enfin lui-même que par complaisance et vaincu par ses instances. Il dit que c'était là la vérité tout entière, et qu'il en jurerait si on l'exigeait. Il conclut en priant avec chaleur M. Allworthy d'avoir compassion de la famille du pauvre malheureux. « D'autant plus, continua Tom, que je suis le seul coupable, et que c'est avec beaucoup de difficulté que j'ai obtenu de lui qu'il fît ce qu'il a fait. En vérité, monsieur, ajouta-t-il, je ne crois pas qu'on puisse appeler un mensonge ce que j'ai dit, puisque le pauvre malheureux était parfaitement innocent. J'aurais suivi seul la compagnie de Perdrix. Je proteste même que c'est ce que je fis d'abord, et qu'il ne m'a suivi que pour prévenir un plus grand mal. Punissez-moi, je vous en prie, monsieur, reprenez-moi mon petit cheval, mais de grâce, pardonnez au pauvre George. » M. Allworthy hésita quelques moments, et puis renvoya les deux jeunes gens, en leur conseillant de vivre désormais ensemble, plus paisiblement, et avec plus d'amitié. Chapitre 5. Contenant les opinions du théologien et du philosophe sur les deux jeunes gens. Quelques raisons à l'appui de leurs opinions, et plusieurs autres choses. Il est probable qu'en divulguant le secret qui lui avait été confié dans la plus grande intimité, le jeune Blifil épargna à son camarade d'être fouetté sévèrement, car l'histoire du nez tout en sang aurait seule suffi à Thwackum pour procéder sur le champ à la correction. Mais l'autre objet était trop important pour n'avoir pas totalement absorbé celui-ci. Quant au mensonge, M. Allworthy dit en particulier qu'il pensait que Tom méritait plutôt d'être récompensé que puni, en sorte que la main de Thwackum fut enchaînée par un pardon général. Thwackum, qui n'avait jamais que les verges dans la tête, se récria contre cette faiblesse et contre cette coupable douceur. « C'est encourager le pareil crime, dit-il, que de ne pas les punir. » Il s'étendit beaucoup sur le chapitre de la correction des enfants et cita un grand nombre de passages de Salomon que l'on ne trouvera pas ici, attendu qu'on peut les trouver dans beaucoup d'autres livres. Il s'appliqua ensuite à démontrer combien le mensonge est un vice affreux, et il n'était pas moins savant sur ce sujet que sur l'autre. Square dit qu'il avait tâché de concilier la conduite de Tom avec l'idée qu'il avait de la vertu parfaite, mais qu'il n'avait pu y parvenir. Il avoua qu'il y avait quelque chose dans cette action qui, à la première vue, ressemblait à du courage, mais que le courage étant une vertu et le mensonge un vice, il ne pouvait aucunement les accorder ensemble. Il ajouta que comme c'était en quelque façon confondre le vice avec la vertu, il pourrait être digne de M. Thwackum de considérer si, à cause de cela même, il n'y aurait pas lieu à un châtiment plus sévère. Ces deux savants hommes, d'accord pour blâmer Tom Jones, ne l'étaient pas moins pour applaudir à M. Blifil. Le ministre assurait que révéler la vérité était le devoir de tout homme religieux, et le philosophe déclarait que rien n'était plus conforme aux règles de la justice et à l'éternelle et inaltérable convenance des choses. Tous ces raisonnements persuadèrent peu à peu M. Allworthy. on ne put le résoudre à consentir à la punition de Tom Jones. Il y avait quelque chose au-dedans de lui que l'invincible constance du jeune homme touchait beaucoup davantage que ne l'avait fait la religion de Thwackum ou la vertu de Square. Il défendit donc sévèrement au premier de punir Tom pour ce qui s'était passé. Le pédagogue fut obligé d'obéir, non sans beaucoup de répugnance et sans murmurer entre ses dents que ce serait un enfant gâté. L'excellent homme se conduisit envers le garde-chasse avec plus de sévérité. Il le fit venir sur le champ devant lui, et après les reproches les plus amers, lui paya ses gages et le renvoya. Car M. Allworthy observait avec justice qu'il y a beaucoup de différence entre se rendre coupable d'un mensonge pour s'excuser soi-même ou pour en excuser un autre. Il disait aussi que le principal motif de son inflexible sévérité envers cet homme était fondé sur ce qu'il avait lâchement souffert que Tom Jones subit, pour l'amour de lui, une si cruelle punition, qu'il aurait dû prévenir en découvrant lui-même la vérité. Quand cette histoire devint publique, bien des gens différèrent de Square et de Thwackum, en jugeant la conduite des deux jeunes gens en cette occasion. M. Blifil était généralement appelé un lâche et un misérable. On ne variait que sur les épithètes de ce genre, tandis que Tom était partout honoré des titres de brave garçon, d'aimable enfant et de bon sujet. En effet, sa conduite envers Black George le remit en faveur auprès de tous les domestiques du château. Car bien que le garde-chasse fût, avant cette aventure, généralement haï, il ne fut pas plutôt renvoyé qu'on le plaignit universellement. L'amitié et la loyauté de Tom Jones furent célébrées par eux tous avec les plus vifs transports, et ils condamnèrent unanimement M. Blifil, aussi ouvertement qu'il l'osait, sans courir le danger d'offenser sa mère. Le pauvre Tom n'en souffrait pas moins pour cela, car il avait bien été défendu à Thwackum d'exercer son bras au sujet de ce qui s'était passé. Mais, comme dit le proverbe, il est aisé de trouver un bâton, etc. Il n'est pas moins de trouver une verge, et l'impossibilité de s'en procurer eût seul pu empêcher Thwackum de châtier le pauvre Tom. Si le plaisir qu'il trouvait à ce jeu eût seul animé le pédagogue, il est probable que M. Blifil en aurait eu aussi sa part. Mais quoique M. Allworthy lui eût fréquemment ordonné de ne faire aucune différence entre ses deux disciples, Thwackum était aussi doux et aussi complaisant pour l'un que dur et même barbare pour l'autre. À dire vrai, Blifil avait mérité d'obtenir l'affection de son maître par le respect profond qu'il témoignait toujours pour sa personne, et beaucoup plus encore, par l'honorable déférence avec laquelle il recevait sa doctrine. Car il avait appris par cœur et répété souvent ses phrases. De plus, il soutenait tous les principes religieux de son maître avec un zèle vraiment surprenant dans un disciple si jeune, ce qui le rendait extrêmement cher à son digne précepteur. D'un autre côté, Tom Jones ne manquait pas seulement au témoignage extérieur de respect, oubliant souvent d'ôter son chapeau à l'approche de son maître et de le saluer, mais il ne mettait pas plus en pratique ses préceptes que son exemple. Dans le fait, c'était un négligent et un étourdi, qui avait aussi peu de retenue dans ses discours que dans sa conduite, et souvent se moquait très indécemment, très impudemment de la gravité de son camarade. M. Square avait la même raison pour préférer Blifil, car Tom Jones ne faisait pas plus d'attention à ses discours qu'à ceux de Thwackum. Il osa même une fois se moquer de la règle de la justice et dit une autre fois qu'il croyait qu'il n'y avait pas de règle au monde capable de produire un homme tel que son père, car M. Allworthy souffrait qu'il l'appelât ainsi. M. Blifil, au contraire, avait assez d'adresse à 16 ans pour se faire aimer et estimer tout à la fois de ses deux antagonistes. Avec l'un, il était tout religion, avec l'autre, tout vertu. Et quand ils étaient réunis, ils gardaient un profond silence que chacun d'eux interprétait en sa faveur, en l'estimant davantage. Blifil ne se contentait pas de les flatter tous deux en face, il saisissait souvent l'occasion d'en faire l'éloge à M. Allworthy en leur absence. Et quand il était tête à tête avec lui, et que son oncle le félicitait de quelque sentiment religieux ou vertueux, car il en énonçait constamment, il ne manquait jamais de l'attribuer aux bonnes instructions qu'il avait reçues, soit de Thwackum, soit de Square. Il savait bien que son oncle répétait tous ses compliments à ceux auxquels ils étaient adressés. Et l'expérience lui avait appris la vive impression qu'il faisait, tant sur le théologien que sur le philosophe. Car il faut convenir qu'il n'y a pas de genre de flatterie plus irrésistible que celle qui nous arrive de la seconde main. Le jeune homme ne tarda pas, en outre, à s'apercevoir combien tous les éloges qu'il faisait de ses instituteurs étaient agréables à M. Allworthy lui-même, puisqu'il tombait en même temps sur le plan que celui-ci s'était fait d'une éducation particulière. Car ce digne homme, ayant observé combien l'éducation de nos public schools est imparfaite, et le grand nombre de vices que les jeunes gens sont exposés à y contracter, avait résolu d'élever chez lui son neveu avec le petit homme, qu'il avait en quelque sorte adopté. Il espérait par ce moyen que leurs mœurs échapperaient au danger de la corruption auquel elles seraient infailliblement exposées dans les public schools ou à l'université. Ayant donc pris le parti de confier ses deux enfants à un instituteur particulier, M. Thwackum lui fut recommandé pour remplir cette fonction par un ami intime, dans le jugement et l'intégrité duquel M. Allworthy avait placé toute sa confiance. Ce Thwackum était agrégé d'un collège où il avait presque toujours résidé, et avait une grande réputation de savoir, de religion et de bonnes mœurs. C'était sans doute ces qualités qui avaient engagé l'ami de M. Allworthy à le lui recommander. Cet ami avait, à la vérité, quelques obligations à la famille de Thwackum, qui était une des plus considérables du bourg que ce gentilhomme représentait au Parlement. Thwackum, à son arrivée, plut beaucoup à M. Allworthy, et il faut convenir que son caractère répondait parfaitement au portrait qui en avait été fait. Cependant, après une plus longue connaissance et quelques conversations plus intimes, ce digne homme aperçut dans l'instituteur quelques défauts dont il aurait désiré qu'il fût exempt. Mais comme il lui semblait plus que contrebalancé par ses bonnes qualités, il ne pensa pas à s'en séparer, et rien n'eût en effet justifié un pareil procédé. Car le lecteur se trompe beaucoup s'il imagine que Thwackum se montra à M. Allworthy sous le même point de vue où on le voit dans cette histoire. Il ne se trompe pas moins s'il imagine que quand il l'aurait connu intimement lui-même, il aurait aperçu tout ce que notre génie nous a mis à portée de lui découvrir. Quant au lecteur, qui conclut de tout ceci que M. Allworthy manque de sagesse ou de pénétration, je ne me fais aucun scrupule de dire qu'ils sont des ingrats et font un bien mauvais usage des connaissances que je leur ai communiquées. Ces erreurs apparentes dans la doctrine de Thwackum servaient beaucoup à pallier les erreurs contraires de celles de Square, que notre excellent homme ne voyait et ne condamnait pas moins. Mais il pensait que ces deux hommes se corrigeraient l'un par l'autre, et que sous sa surveillance, les deux enfants en retiendraient des principes suffisants de religion et de vertu. Si l'événement trompa son attente, on peut l'imputer à quelque faute dans son plan, que nous laissons au lecteur la liberté de découvrir s'il le peut. Car nous n'avons pas la prétention d'introduire des caractères infaillibles dans cette histoire, où nous espérons qu'on ne trouvera rien que l'on ait encore vu dans la nature humaine. Le lecteur ne sera pas étonné, je pense, que la différente conduite de ces deux jeunes gens ait produit sur leurs instituteurs ces différents effets dont on a déjà vu quelques exemples. Il y avait d'ailleurs une autre raison pour expliquer la conduite du philosophe et du pédagogue. Mais ce sujet étant d'une grande importance, nous le réservons pour le chapitre suivant.